Bon vendredi midi, bienvenue à Ciné Histoire. Aujourd'hui, très très gros programme parce que hier s'est amorcée la 13e édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Et puis, c'est un peu ce qui va dicter, je crois, la majorité de l'émission d'aujourd'hui parce que on va recevoir deux artisans qui viennent présenter leur film donc ici à Sherbrooke. On va s'entretenir vers midi 15 avec Martin Bureau, réalisateur de Plus rien est égal par ailleurs, là, qui sera présenté dimanche dans le cadre du festival. Donc, un très beau film à mi-chemin entre le documentaire, le film expérimental, l'essai visuel. Bref, un film que j'ai beaucoup apprécié, que je vous suggère évidemment. On va en parler avec son réalisateur. Donc, comme je le mentionnais, on va également recevoir en deuxième heure Sophie Bédard-Marcotte, réalisatrice de J'ai perdu de vue, Le territoire. Documentaire sur la production d'une pièce ayant pour thème principal, ou en tout cas comme analogie, le mythe de Sisyphe. Et puis, le documentaire reflète un peu ce mythe-là par la bande. Donc, vraiment une proposition très originale, très drôle sur le processus créatif, sur le processus créatif, mais aussi l'espèce de... circularité de la vie, on va dire, recommencement éternel de tout ça. Bref, très intéressant. Elle va venir nous parler en studio de tout ça en deuxième heure. Je vais également... hier, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Juliette Gariepi, l'actrice du film Mile and Kicks, qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Il y a une projection spéciale ce soir en présence de l'équipe du film. C'est le nouveau projet de Chandler Levac, réalisatrice à qui on doit I Like Movies, qui avait d'ailleurs été en compétition, je pense, ici au Festival Cinéma du Monde il y a 2 ans. Donc, je me suis entretenu avec Juliette Gariepi. Donc, vous pourrez entendre ça un peu plus tard à l'émission. Et je vais également, parce que quand j'avais essayé à l'origine, ça ne fonctionnait pas, je vais vous présenter l'entrevue que j'avais réalisée lors de l'annonce de la programmation du Festival Cinéma du Monde avec Catherine Villot, donc la directrice de la programmation, mettre un peu la table sur ce festival qui s'est amorcé hier avec la projection du film « Ma frère » puis qui se poursuit là jusqu'au 23 mai, avril prochain. Donc, elle fait un petit tour d'horizon de la compétition, des films à ne pas manquer. Bref, c'est ça. Vous pourrez entendre ça également. Je vous rappelle, je ne sais pas si on les a toutes données, mais on avait des passes à tirer à CFAC, donc des passeports pour 5 films pour le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Visitez nos réseaux, là, voir si il en reste. Je ne sais plus trop. Mais bref, voilà. C'est ce qui vous attend aujourd'hui. Je vais également faire un petit topo sur Mile and Kicks qui prend l'affiche, qui est la nouveauté qui prend l'affiche. C'est pas la seule nouveauté, mais là, c'est ça. On a une congestion dans l'émission, mais il y a le film The Mummy, ou Lee Cronin's The Mummy, donc une nouvelle proposition de Lee Cronin qu'on avait, je sais pas si c'est son précédent film, mais en tout cas, il avait fait la suite Evil Dead Rise il y a quelques années, 2 ans, si je ne m'abuse. Donc, un jeune réalisateur d'horreur qui a le vent dans les voiles. C'est ça, je ne l'ai pas vu et je ne pourrais pas le voir malheureusement, mais c'est ça, c'est la seule nouveauté qui prend l'affiche aujourd'hui, en dehors de toutes ces belles projections du festival. Écoutez, on va partir en musique tout de suite pour se laisser le temps de rejoindre notre premier invité et on se retrouve un peu plus tard avec Martin Bureau du film Plus rien n'est égal par ailleurs. On revient dans quelques instants.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et on commence un peu notre exploration de la programmation du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke en parlant du film Plus rien n'est égal par ailleurs. Et puis pour en parler, on a son réalisateur Martin Bureau. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, oui, merci.
D'abord, félicitations pour ce documentaire dans lequel vous explorez les dérives de la société de consommation dans une forme proche de l'essai cinématographique, même de l'art visuel. Ça m'a beaucoup fait penser, en fait, au film. Là, ça peut évoquer quelque chose à nos auditeurs et auditrices, là, la trilogie Katsi, Koyaanis Katsi, notamment. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce sujet-là dans ce documentaire?
Ben, effectivement, la référence de Koyaanis Katsi est bonne parce que pour moi, s'il y a une raison par laquelle j'ai trouvé l'utilité de faire des films, c'est probablement ce film-là qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Et puis, ça a percolé dans le temps. Puis moi, je suis devenu artiste en art visuel, peintre. J'ai commencé à faire des documentaires tranquillement. J'ai commencé par les vidéoclips. Ce pourquoi aussi on remarque la facture est très, très vidéoclip aussi. C'est très saccadé. Il peut y avoir des moments très musicaux aussi. Et puis donc, j'ai comme fédéré tous ces intérêts-là dans ce film-là qui fait appel à ces origines-là que sont la vidéo d'art, le vidéoclip, le documentaire qui ont parsemé mon parcours là, jusqu'ici.
Et puis, justement, pourquoi avoir décidé d'explorer le... Ben, c'est comme évident parce que ça nous entoure, là, les dérives de cette société de consommation-là, mais pourquoi est-ce que vous avez jugé que ce sujet-là en particulier pouvait bien s'appliquer à votre style de documentariste?
Ben, c'est comme si ce projet-là fédérait non seulement les formes par lesquelles j'ai toujours travaillé, les formes artistiques, mais aussi les thématiques. Et ces thématiques-là se relaient beaucoup à la question de l'Anthropocène, donc l'ère dans laquelle on serait plongé actuellement, où est-ce que l'impact de l'homme sur le cours de la nature, sur les écosystèmes, fait en sorte qu'on est obligé de nommer l'époque dans laquelle on est l'ère de l'homme. Donc, c'est-à-dire qui est une vision assez, catastrophiste de la chose, parce que ça veut dire que nos impacts, vraiment, ont un cours irréversible, laissent une empreinte irréversible sur le cours des choses, sur le cours naturel des choses. Donc, pour moi, ça, c'est la grande thématique de mon travail. Et puis, si on la décline de manière plus précise, ben les dérives de la société de consommation en sont une. Mais c'est aussi pour moi l'angle que je voulais avoir là-dedans, c'est que c'est comme si on est conscient. C'est pas un film qui vise à donner une leçon ou à culpabiliser, parce que c'est l'idée qu'à travers toute l'information dans laquelle on est, l'hyperinformation, on est tous conscients que nos gestes sont en lien avec une potentielle destruction de la nature. Donc, c'est ça, que ce soit notre consommation matérielle ou numérique désormais. Et puis donc, pour moi, cette idée-là, une fois qu'elle est conscientisée, ben c'est de se positionner, à savoir qu'est-ce qu'on fait donc individuellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue d'exalter bêtement, de manière nihiliste, c'est-à-dire en faisant comme si de rien n'était, ou en se disant que de toute façon, on ne peut rien y faire, ou etc., ou on prend position de manière consciente en posant gestes, en posant des actions, des pensées. Donc, c'est un peu ce questionnement-là que le film vient révéler, comme je le disais, sans objectif de culpabiliser, mais plutôt de poursuivre la réflexion.
Le film se présente comme différents tableaux d'associations, d'idées, de concepts, d'images, entrecoupées des paroles prononcées par le philosophe Alain Deneau, qui, à ma compréhension, est quand même arrivé assez tôt dans le processus. Pourquoi avoir décidé de collaborer avec lui?
Je dirais d'abord par affinité élective, c'est-à-dire que moi, j'étais un lecteur, je suis toujours un lecteur des essais d'Alain. Et puis, alors qu'on était tous plongés en 2020 dans la pandémie, Alain a publié un texte qui s'appelait « Gaïa vit son MeToo », qui était un appel à la prise de conscience collective face à cette idée-là qu'étant donné que la planète soudainement avait une pause, c'était le moment de réfléchir puis de se repositionner face à nos actions. Et puis ça a été un des éléments déclencheurs qui, pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de rassembler des idées pour développer un long métrage, puis j'avais pas encore tout mis les pièces ensemble. J'avais l'idée d'une chorale visuelle, d'où la référence initiale de Koyaanis Kati. Donc j'avais cette idée-là, mais ça en plus, puis donc je laissais rentrer toutes les opportunités intellectuelles, conceptuelles, artistiques. Et puis quand j'ai lu ce texte-là, j'étais vraiment comme assez d'accord, parce qu'Alain disait dans son texte, il dit il faut maintenir une tension entre la gaieté et la lucidité. Donc la gaieté sans lucidité, c'est être imbécile heureux, et la lucidité sans gaieté, c'est la dépression assurée. C'est ce qu'Alain disait, notamment. Puis ça, cette phrase-là était comme le leitmotiv qui m'a amené à vouloir réfléchir le monde dans lequel on est. De manière consciente. Donc, Alain, je l'ai contacté au début, dès 2020, le connaissant pas personnellement. En fait, j'ai trouvé son adresse en tant que professeur à l'Université de Moncton. J'y ai écrit, il m'a répondu. Puis on s'est comme tranquillement, apprivoisé. Je l'ai contacté. Puis d'emblée, je lui ai dit, je voulais pas que son intervention soit celle d'un spécialiste interviewé. Moi, comme ma posture de cinéaste, c'était pas je voulais pas te faire d'entrevue de chaise avec un spécialiste à qui j'allais poser une question, puis donc ses réponses allaient me, me conforter dans ce qu'on allait voir ou dans ce qui venait d'être vu dans le film, par exemple. Cette posture-là un peu traditionnelle du documentaire m'intéressait moins. Je voulais qu'Alain intervienne en tant que créateur. Donc, c'est-à-dire que on s'est apprivoisé plusieurs années durant, et puis à la fin du processus, donc l'an dernier, une fois que le film était quasiment terminé en termes d'image, je lui ai donné la maquette du montage, puis je lui ai dit voici la matière avec laquelle travailler. Puis Alain, il a regardé ça, puis on s'est donné une date de tournage. Où est-ce que Alain est arrivé, et puis il nous a improvisé, jazzé, de manière, il a fait un jam de philo, si on peut dire, en réaction à ce qu'il avait vu. Donc moi, je savais pas qu'est-ce qu'il allait me dire, et puis il y avait comme l'entière liberté, à l'instar des autres créateurs qui sont dans le film, le concepteur sonore, la conception musicale, la direction photo, le montage, etc. Donc pour moi, c'était un des créateurs de plus du film et non pas un spécialiste interviewé. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné avec Alain.
Mm-hmm. Je vais revenir tantôt sur l'importance du son. Évidemment, je travaille dans une radio. Je le côtoie beaucoup. Je l'ai trouvé très bien utilisé dans ce documentaire-là. Mais moi, une question qui m'a toujours traversé l'esprit dans le cas Yannis Katsi ou dans ce type de film-là, justement, c'est comment est-ce qu'on assemble de pareils collages? Comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que vous aviez quand même une idée assez claire de certaines associations, certains tableaux que vous vouliez mettre en image, ou est-ce que ça se décide en grosse partie au montage? Comment est-ce que vous procédez?
Bien, chaque projet commande sa manière de procéder. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai fonctionné par tableau, vous l'avez dit. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, dans les premières images du film, il y a un tableau où est-ce qu'on voit une bénédiction de motard avec un shoboukan, puis en même temps, en parallèle à ça, on voit la destruction d'une église, par exemple. Ouais. Donc, pour moi, il s'agissait de trouver des dualités qui allaient se répondre une à l'autre, puis je faisais des tableaux, puis je les mettais de côté. Après ça, on a fait un tableau, par exemple, les feux d'artifice avec le casino et le champ de tir, par exemple. On l'a tout monté dans un bloc, puis on le mettait de côté. Donc, on montait des 5, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, puis on les mettait de côté. Puis, à un certain moment, une fois qu'on a accumulé comme plusieurs tableaux, là, on a commencé à construire un récit au montage. Il n'y avait pas vraiment d'idée. C'est pas un récit linéaire, hein, vous l'avez vu. C'est pas, je vous raconte pas une histoire où est-ce qu'on passe de A, puis on s'en va à B, puis on finit à Z. C'est vraiment comme une courte pointe un peu déchirée dans laquelle on pourrait après ça retisser le récit de manière différente. Mais moi, après ça, on est allé vraiment au feeling, la progression, la montée dramatique. Là, on faisait appel à des concepts cinématographiques d'affect, donc de réception. C'est-à-dire que là, il y a une montée, là, ça prend une chute, là, il faut une pause, puis on repart sur autre chose. Ce sujet-là, c'était très instinctif, là, après ça, au montage. Donc, un film, pour répondre à la question simplement, c'est un film qui s'est écrit au montage.
Mm-hmm.
Puis, curieusement, oui. Curieusement, en fait, inspiré de Yannis Katsi, encore une fois, je me suis mis à lire tard, une fois que le film était pratiquement terminé, sur comment eux, je suis tombé sur des articles, je me suis mis à lire là-dessus. Puis pour m'apercevoir qu'il avait procédé de la même manière, ce que je savais pas. En fait, j'ai su ça tout récemment, que dans Yannis Katsi, il avait procédé de cette même façon-là, en accumulant l'image, puis finalement, au montage, en décidant de les agencer de manière instinctive.
Oui, bien, c'est vraiment très intéressant. Merci de nous éclairer là-dessus. C'est ça, je vais... une question encore sur le format, parce que c'est ce qui fait, selon moi, la force du film et sa particularité. Pensez-vous que cette approche-là a le potentiel peut-être de faire davantage réfléchir qu'une approche plus traditionnelle avec des entrevues d'experts et tout ça? Puis si oui, qu'est-ce que le spectateur, ou qu'est-ce que vous essayez de faire évoquer au spectateur?
Ben, je pense que les deux se valent. Je pense que un propos de fond qui analyse, qui rend des données tangibles, c'est tout à fait pertinent. Dans mon cas, j'étais plus dans l'affect. Donc, ce que je perçois et espère, c'est que le spectateur puisse avoir une charge visuelle et sonore intense qui nous pousse presque jusqu'au malaise, mais pour en ressortir avec des issues de réflexion. C'est vraiment comme ma première réponse à cette question-là, c'est comme Alain. Moi, vous savez, mon premier métier, c'est l'art visuel, donc la peinture. Puis l'idée de la peinture, c'est d'arriver en avant d'un tableau et puis de ressentir la charge affective, émotionnelle, visuelle d'un coup, en fait. Et puis qu'il y ait quelque chose qui fait appel à quelque chose qu'on nomme pas avec des mots, nécessairement. Donc c'est un peu cette posture-là que c'est même pas un peu, c'est tout à fait cette posture-là que j'ai mis en place dans l'idée de faire ce film-là, qui en soi reprend les mêmes thématiques que mes tableaux, mais les fait se déployer en mouvement. Mmh. Finalement, mes tableaux, c'est mon cinéma arrêté, puis mon cinéma, ben, c'est mes tableaux en mouvement.
Mmh. Non, c'est vraiment très bien dit. Quelques mots sur la conception sonore aussi, qui, ben là, vous avez mentionné avoir laissé beaucoup de liberté là, à ceux qui ont fait soit la musique ou la création sonore. Mmh. Mais ça aussi, c'est décidé en montage selon la perception de vos collaborateurs face aux images qu'ils voyaient?
Ben, d'abord, la conception sonore, c'est Olivier Calveux qui est originaire de votre coin de pays, là, donc de Sherbrooke. Ah oui. Et puis Olivier, qui est un maître du son, qui a remporté plusieurs prix, dont récemment La jeune fille et la perle, qui pleurait des perles. C'est Olivier qui a travaillé sur la conception sonore, par exemple, là-dessus. Olivier, c'est un collaborateur pour moi de longue date. Quand Olivier arrive dans le processus, c'est vraiment comme... C'est vraiment comme la catapulte qui amène le film dans une autre dimension, parce qu'avec Olivier, ce qu'on fait, c'est qu'on invente des mondes. Hein. Ce n'est pas une conception sonore naturaliste documentaire. Si on voit un arbre dans le vent dont les feuilles bougent, ben on ne va pas nécessairement mettre le son du vent qui va faire bouger les feuilles. On est très métaphorique dans la conception. Puis Olivier, je lui dis, beurre épais, mets-en le plus épais possible, puis évoque, suggère, emmène-nous et ailleurs. C'est de cette manière-là qu'on fonctionne avec Olivier. La conception musicale est tout autant importante parce que ce duo-là agit de pair. Donc, Éric Dorion, compositeur de musique actuelle, qui nous, en fait, la première étape du film, c'est important de le dire, la première étape qu'on a fait dans ce film-là, c'est faire la musique. Okay. On a commencé le film par faire la musique. C'est sûr que ça a été une requête que j'ai faite auprès de l'ONF, qui est producteur du film. Donc, j'ai demandé, moi, curieusement, je sais que c'est la chose qu'on fait en dernier d'habitude, mais moi, j'aimerais ça commencer par ça, parce que ça serait l'étincelle qui me permettrait vraiment d'avancer, sur laquelle monter. Puis, je suis habitué de travailler de cette manière-là dans mon passé de réalisateur de vidéoclips, notamment. Mm-hmm. Et puis, on a commencé par ça. Et puis, ça, c'est devenu comme une espèce de matrice sur laquelle on travaillait. Puis, on s'échangeait des images après ça avec Eric, puis qui modifiait lui-même les trames qu'on avait enregistrées en studio. Il y a eu des allers-retours comme ça qui se sont faits. On a quand même un petit peu déconstruit les manières traditionnelles de faire pour se rapprocher d'une logique de travail en atelier, parsemé d'essais, d'erreurs, d'allers-retours. Donc, c'était ce que j'ai... Comme on a réussi à mettre en place vraiment comme processus dans ce film-là, qui a fait en sorte que ça a été organique du début à la fin.
Mm-hmm. Ben écoutez, vous mettez la table à la discussion que vous aurez avec le public dans le cadre du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Le film sera présenté ce dimanche à 19h45 en votre présence. Écoutez, j'aimerais ça vous faire de la publicité, mais l'événement affiche déjà complet, donc c'est tant mieux. Oui. Ça va être très intéressant.
C'est ce que j'ai su. C'est ce que j'ai su. S'il y a quelques personnes qui... souhaiterait oser se présenter. En fait, il y a toujours des deux ou trois places qui restent. Fait que c'est ce que je vous dirais. Là,
foncez. Oui. Foncez avec confiance.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais Martin Bureau, vraiment, grand merci d'avoir pris le temps de nous parler de votre nouveau film « Plus rien n'est égal » par ailleurs. Bon passage à Sherbrooke dans deux jours et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci beaucoup de cette invitation.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Donc, je suis en compagnie de Catherine Viau, directrice de programmation film du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Bonjour Catherine, vous allez
bonjour.
Bien?
Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre... curiosité.
c'est pas la première fois là, que je fais la couverture du festival. À chaque fois, vous essayez de trouver un peu une ligne directrice en tant que programmatrice du festival. Dites-nous un peu ce qui vous a préoccupé peut-être ou quel thème peut-être un peu plus central concerne les films que vous avez programmés.
Oui, alors cette année, comme je l'ai exprimé en conférence de presse tout à l'heure au moment du lancement de la programmation, moi je circule toute l'année entre tous les cinémas du monde. Je regarde je cherche pas je cherche pas à trouver quelque chose de particulier. J'ouvre les vannes et j'écoute ce qu'on me propose. Et je suis toujours à la recherche de propositions indépendantes qui sont pas nécessairement les propositions que vous allez voir sur les plateformes que vous consultez. Mais je veux aussi m'assurer que les bons films de l'année, vous les aurez vus. C'est, si vous réservez votre période de festival pendant une semaine, vous dites, bon, j'en ai raté quelques-uns, je vais aller au festival, je vais voir La Petite Sirène, je vais voir le film des Frères Dardenne, je les repogne au passage, The Voice of Enrajab, je les ai, ces pépites-là, je vais les trouver. Mais je vais voir aussi un film irakien, c'est rare qu'on voit ça, un film de fiction, un thriller tourné à Gaza, une comédie tournée en Colombie, une autre comédie sur le vieillissement au Brésil, vous allez avoir l'occasion de voir ça. Donc, moi, je vois ces expressions-là du cinéma indépendant. Je les recueille. Puis, ce qui est drôle, c'est que des fois, je les trouve au début de l'année, au moment où ça sort. Puis ensuite, l'année se passe. Puis tout d'un coup, oups, je les vois popper dans des festivals. Là, je dis, ben, coudonc, et pas pire. Je retrouve le film qui gagne un prix dans un grand festival de cinéma. Et puis, donc, ça valide mes choix en quelque sorte. Là, c'est un petit travail égoïste, là. Mais, et puis là, plus le festival, on approche de la présentation du festival, j'essaie de dire comment je peux construire du sens, parce qu'on circule dans le chaos, hein? on choisit ce qu'on veut dire avec les exemples qu'on a choisis. Puis cette année, je me disais, notre film d'ouverture parle de diversité, d'inclusion, ça se passe dans une colonie de vacances. Tous les enfants sont bienvenus dans la colonie de vacances. On ne sait pas, certains enfants ont des droits et d'autres n'en ont pas. Donc, tous les enfants sont bienvenus. C'est un film réjouissant, construit autour d'un casting sauvage, donc frontière entre le documentaire et la fiction, et avec un message, finalement, d'ouverture sur l'autre. Je me dis, bon, ça parle. On va commencer, on va se redresser en ouverture de festival, puis on ne parle pas de la morosité. On dit, on est capable, on regarde ça. Et là, je construis autour des thèmes. Je trouve des films qui nous permettent de nous positionner sur le sens de l'histoire. J'en vois qui nous font réfléchir sur la... On pourrait dire qu'on est juste avant l'apocalypse, comme le film de Raoul Peck sur Orwell 2+2=5. Et puis, j'aboutis à mon film de conclusion, qui est un film indépendant américain. On n'est pas du tout dans le mainstream, même si l'acteur Josh O'Connor est connu dans d'autres réseaux. Puis là, on arrive dans une espèce d'ambiance post-cataclysme. Il y a eu quelque chose qu'on pourrait attribuer au changement climatique, même si ce n'est pas ce qu'on dit. Puis quelqu'un, une communauté a tout perdu. Puis, comment on fait pour repartir de là? Puis en réalité, là, on repart avec ceux qui sont autour de nous, avec un autre monde est possible. Puis peut-être une autre Amérique est possible. Mais finalement, je me dis, tiens, cette narration-là, elle fait du sens. Et puis quand je dis entre l'ouverture et la fermeture, entre les deux, la vie, là, la naissance et la mort, la vie, mais il y a aussi... d'autres occasions de se réjouir. On n'a pas que des gros films lourds, là. On a des films qui vont nous faire sourire aussi, même dans leur sérieux. Donc, j'espère que tout le monde va en trouver pour son compte. Puis, il y a beaucoup d'activités parallèles que l'équipe organise aussi. Des réalisateurs qui viennent faire des classes de maître, des ateliers, des discussions. Donc, je crois que... Puis, ça donne un mouvement dans la ville de Sherbrooke où on se promène sur la rue, les gens échangent entre eux. Moi, je trouve que c'est assez sympathique, tout ça.
Vous mentionnez dans la conférence de presse que ça va être difficile pour le jury de faire sens un peu deux compétitions, la compétition fiction, Cercle d'art fiction et documentaire, parce qu'on part un peu de tous les côtés, mais à voir les films, c'est ça, vraiment 10 films de qualité. Je ne sais pas si vous pouvez mettre un peu l'eau à la bouche de ces deux compétitions.
Alors, écoutez, en fiction, on a le film, je vous ai parlé du film Le Poète, un film colombien, très drôle. Moi, j'ai vu ça, je trouvais que ça avait l'air de The Office, là, tu sais, à cause du style très nerveux. Encore une fois, on ne sait pas si c'est de la télé-réalité, mais le réalisateur maîtrise très bien le format. Puis c'est un poète qui ne l'a pas pantoute. Il a eu son heure de gloire, peut-être 2 livres, il y a 10 ans, puis il n'arrive pas à percer dans le monde culturel envahi par la télé médiocre. Il décide de prendre quelqu'un sous son aile, une jeune poétesse, et puis ça ne marchera pas, c'est des rebondissements. C'est très drôle, une comédie très drôle. À l'opposé de ça, dans nos films de fiction, on a Sirat, le film d'Olivier Lax, qui est sorti en salle, mais que j'ai tenu à reprendre puis à mettre en compétition, parce que je trouve que c'est un moment fort de l'année qui ne vous laissera pas indifférent, vous allez aimer ou détester. Mais il y a des mouvements dans ce film-là qui me plaisent. D'abord, l'immigration vers le sud. On est toujours dans l'immigration vers le nord. Puis là, ils s'en vont vers le sud parce que le père, à la recherche de sa fille disparue, va aller de rave en rave. Et là, il y a un environnement sonore. Le réalisateur, il parle de choc thérapie. Donc ça, c'est une expérience. Là, je vous l'ai dit de mémoire, les autres titres, excusez-moi. Olmo. Alors ça m'a beaucoup plu. C'est un film qui se passe au Nouveau-Mexique, 1979. Puis c'est des jeunes, un petit groupe d'amis dont un a la responsabilité de son père qui a la sclérose en plaques. Ça pourrait être triste, mais il a son rôle, même malade, il a un rôle à jouer dans la vie de son fils. Puis c'est une comédie. Lui veut aller chez sa voisine au party. Et c'est une série d'événements manqués, mais très drôle, très humain. Ambiance des années 70. The Blue Trail, le titre français, c'est Les vacances de Teresa. Là, on s'en va au Brésil, puis dans une petite ville industrielle, on essaie d'évacuer les petits vieux qui sont plus utiles. Là, c'est une fantaisie, mais c'est pas loin de la réalité. Puis on les dirige vers ce qu'on appelle des RPA ici au Québec, mais là-bas, ils disent des colonies. Ils ont créé des colonies pour isoler les petits vieux, puis Teresa, elle décide qu'elle se laissera pas prendre, puis elle sac son camp, elle s'en va faire la remontée de l'Amazon et c'est très drôle. Et le dernier film en compétition document fiction, c'est All That's Left of You, Ce qu'il reste de vous. Puis là, ça m'a beaucoup ému parce que le film, je veux pas vous donner le punch, là, mais le film commence avec une manifestation qui tourne mal en Cisjordanie occupée. Et là, il y a un flashback et on re-raconte l'histoire d'une famille sur cette génération. Et je me suis rendu compte qu'on la connaît pas, cette histoire-là. On le sait qu'on connaît la Nakba, on voit aujourd'hui, mais entre les deux, je suis heureuse de les voir occuper un espace dans notre imaginaire dramatique. Un très beau film. Alors, en compétition, je vous ai parlé de Bande-son pour un coup d'État. Il y a À travers tes yeux de Brigitte Poupard. C'est un film sur l'adoption très émouvant parce qu'elle va aller à la rencontre de la mère biologique de sa fille, avec sa fille Fabiola, qui est co-réalisatrice. Et le moment de la rencontre pose toutes les questions. Tout le monde veut bien faire là-dedans. Puis c'est toutes les problématiques humaines et déchirantes de l'adoption. J'ai perdu de vue le paysage de Sophie Bédard-Marcotte. Ça, c'est très drôle parce qu'elle s'intéresse au travail artistique de son voisin qui fait du théâtre puis qui veut faire le mythe de Sisyphe. Puis elle veut faire un film là-dessus puis ça marche pas. Elle recommence tout en suivant son sujet. Fait que dans le fond, elle fait ce qu'elle décrit. Elle fait le mythe de Sisyphe. Et j'ai trouvé ça énervant et drôle. Et Loin de moi la colère. Alors là, on s'en va en Afrique. Un réalisateur ivoirien, Joël Akafou, qui a suivi une femme qui a essayé, n'ayant de support de personne, de reconstruire sa communauté en créant un centre de parole. Et c'est un travail sur la résilience avec Josiane le Mamadjou, qui est un personnage immense, un exemple de... Après la guerre, qu'est-ce qu'on fait pour continuer de parler quand on vit dans la même communauté avec nos agresseurs? Puis le dernier film de Julien Lee, Boca Chica au Texas. Alors là, ils sont là, puis ils attendent d'aller sur Mars en noir et blanc. Ils sont assis sur leur chaise de jardin. Puis c'est là qu'Elon Musk installe ses centres de fabrication de... Puis là, tu dis, ça se peut pas, là. Et je suis tombée sur le livre. Je l'ai pas lu encore, mais j'ai vu une revue de presse sur le livre Les nouveaux maîtres de Raphaël Bach, journaliste du journal Le Monde. Puis quand elle décrit comment ces nouveaux maîtres voient l'avenir, c'est terrifiant. C'est pire que dans le film qu'on va vous montrer de Shifting des Ailes. Alors, c'est des environnements différents, des factures différentes, des budgets différents, des problématiques différentes. Puis comment peut-on dire qu'un film est meilleur que l'autre? Moi, je donnerais des meilleurs à tout le monde, là, mais c'est juste pour faire jaser un petit peu. Fait que ça, c'est nos films de compétition.
C'est la 13e édition du festival. Je ne sais pas si vous êtes là depuis les tout débuts. Est-ce que ça devient plus difficile ou plus facile de programmer? Parce qu'on sait que le cinéma international a quand même eu, ça date de plus que 13 ans, là, mais il y a quand même une expansion peut-être des nouveaux pays qui font leur apparition sur la scène.
Alors,
est-ce que ça devient...
On l'a vu, puis moi, je vérifie les statistiques à chaque année, là, parce qu'il y a des années où je disais ça n'a pas de bon sens. 95% des films dans le monde sont des films qui viennent du cinéma américain. Puis là, ce que je constate, la courbe, on la voit, il y a de plus en plus de films de cinéma nationaux. Il y a une reconnaissance dans les pays des cinématographies nationales, des vraies industries en Chine et tout ça. Donc, le cinéma national prend plus de place, puis prend plus de place dans vos écrans aussi. Vous en voyez plus au cinéma, c'est tant mieux, là. Puis c'était les choses qui devaient aller dans ce sens-là. Moi, je regarde aussi qui paye pourquoi. Ça, c'est amusant, ça, quand on prend un peu de temps. C'est qui paye pour les films qui viennent de Somalie. Puis là, on retrouve souvent les anciens réseaux de colonisation. C'est les Allemands, ils payent là, les Français, ils payent là. Fait que c'est intéressant de voir qui paye pourquoi aussi. Ça, c'est une autre analyse qu'on pourrait faire ultérieurement. Mais il y a de plus en plus de films. La Maison du cinéma en programme aussi chaque année. Mais ça n'enlève pas le besoin de temps en temps de s'arrêter puis d'en parler un petit peu. Là.
Vous l'avez mentionné, c'est un peu un best-of de l'année. Il y aura les gros films, un peu sentimental value et tout ça. Mais si vous aviez peut-être une petite pépite à nous suggérer? T'sais, un film qu'on ne verra plus jamais cette année parce qu'il est tellement...
Je vais faire une suggestion puisque vous êtes l'Université de Sherbrooke. Moi, j'avais trouvé The Goddess of Slide d'Alfonso Majorana sur la guitariste Hélène McEwen. Je ne l'avais jamais entendu parler, Ilwen. Mm-hmm. Puis d'abord, une expérience musicale exceptionnelle, la découverte d'un personnage, d'une ère musicale qui était un bain culturel dans lequel j'avais pourtant baigné, que je croyais connaître. Donc, une belle découverte. Et puis, le film n'existait même pas en version française. Puis, Alfonso Majorana était un réalisateur québécois. Donc, l'Université de Sherbrooke en a fait la traduction. Et au moment où je vous parle, je ne sais pas comment ils ont traduit le titre, The Goddess of Slide. Donc, on va faire un atelier là-dessus parce que ça permet au film d'avoir une seconde vie, de le voir en version française. Et puis, c'est un beau film. Puis, je ne l'ai pas vu programmé ailleurs. Pourtant, ce film-là a fait des festivals partout dans le monde. Mais ici, il n'a pas été vu au Québec. Donc, ça, j'étais contente. Puis, on va avoir le réalisateur qui va venir pour l'atelier sur la traduction. On verra s'il parle très bien français. C'est un francophone de Montréal. On va voir si, quand il entend le film, il se reconnaît aussi. Fait que ça sera une occasion pour l'université de participer à la réflexion.
C'est ça, le festival battra son plein du 16 au 23 avril prochain. Oui. Je ne vous souhaiterai pas bon festival parce que vous avez déjà vu tous les films.
Je ne vous dirai pas, mais il y en a un ou deux que je n'ai pas vu parce que je veux les voir dans la salle, mais je sais qu'ils sont bons. Donc, si je vais venir les voir, ceux-là, vous verrez.
Mais merci beaucoup, Catherine Villot. Puis on va souhaiter à tout le monde un bon festival.
Ben, merci à vous. Merci à vous.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Collés les uns aux autres sans arrêt. Si on...
Le film Mile and Kicks de la réalisatrice torontoise Chandler Levac prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. L'équipe du film, notamment Juliette Gariepy et Robert Naylor, seront de passage à Sherbrooke ce soir pour, on peut pas dire l'avant-première, mais pour la première du film. Et j'ai eu la chance hier de m'entretenir avec donc Juliette Gariepy, qui incarne un rôle de soutien dans ce retour au grand écran de Barbie Ferreira. Là, on en parle beaucoup. Le film a été projeté à South by Southwest, puis ça a été un gros sujet de discussion là-bas. C'est son premier rôle d'envergure, on va dire, depuis Euphoria, depuis qu'elle a quitté la saison 2 d'Euphoria. Et puis, on a discuté un peu du film que je vous conseille vraiment, une lettre d'amour au cinéma, à la musique montréalaise. Indépendante, indie, là, les grosses époques d'Arcade Fire et tout ça. Bref, Mile and Kicks, je vous le recommande fortement et on s'en va écouter l'entrevue que j'ai réalisée donc avec Juliette Gariepy, puis on vient un peu plus tard.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis aujourd'hui prend l'affiche Mile and Kicks, le nouveau long métrage de Chandler Levac. Pour en parler, on reçoit l'une des interprètes du film, Juliette Gariepy. Salut Juliette, ça va bien?
Salut, ça va bien toi?
Oui, ça va super bien. Merci. D'abord, félicitations pour ce film, une proposition anglophone, mais qui se passe quand même à Montréal. Le film suit Grace, une critique musicale de Toronto qui vient s'établir le temps d'un été à Montréal pour s'imprégner de sa scène musicale florissante. Là, on est campé au début des années 2010. Toi, tu interprètes Madeleine, donc sa coloc, mais pas seulement sa coloc, de Montréal. Peux-tu nous parler un peu de ce rôle-là?
Ben oui, alors c'est ça, Madeleine, c'est la fille qui va aider le personnage de Grace à découvrir Montréal, qui va lui présenter tout le monde cool, le monde pas cool, toute cette belle compagnie-là, et puis qui donc Grace va habiter chez elle, chez Madeleine, puis finalement, ça va devenir un peu une relation dysfonctionnelle, comme il peut arriver souvent dans des colocations, puis Madeleine, à travers tout ça, elle essaie de faire ce qu'elle aime, d'être DJ, puis c'est pas facile. Elle a un chum qui est dans un band, que lui, ça va bien ses affaires, fait qu'elle essaie, elle aussi, de voler de ses propres ailes.
On va reparler de ce chum-là là, qui est incarné par Robert Naylor. Bref, le film, je l'ai mentionné, deuxième long-métrage de Chandler Levac qui s'était fait remarquer pour son précédent film I Like Movies.
Oui.
Parle-nous un peu de... C'était comment travailler avec elle?
c'était vraiment super. Dès qu'on a lu le scénario, je riais, j'étais touchée. Elle est vraiment bonne pour écrire des scènes awkward, drôles, qui sont... c'est sûr que I Like Movies, ça a été vraiment une révélation pour plusieurs, je pense, des cinéphiles, du monde qui sont un peu malaisants ou qui ont de la misère socialement. Puis elle est vraiment bonne pour recréer un peu ces dynamiques-là entre des jeunes qui essaient de faire leur place. Mais franchement, ça a été à la première lecture incroyable. Elle est super chandeleuse pour écrire des scènes drôles.
Oui, effectivement. Puis on sent qu'il y a toujours quelque chose de personnel, même si elle n'a pas vécu l'entièreté des situations là, qui se passent dans ces deux films-là. C'est un peu particulier. C'est ça, Mylène Kix a été présenté à quelques festivals, mais finalement prend l'affiche un peu plus tard ici au Québec. En même temps qu'il y a une proposition de Netflix, Roommates, là, qui va sortir bientôt. J'ai bien hâte de découvrir ce film-là également, mais je veux revenir un peu sur ton rôle parce que c'est ça, donc tu incarnes un peu un rôle bilingue. Là, c'est-à-dire que tu es une Québécoise francophone, mais tu dois, par la force des choses, un peu parler en anglais. Je serais surtout curieux de t'entendre sur peut-être les différences peut-être que tu as constatées ou les similitudes de production entre une production anglophone, mais qui vient tourner au Québec, puis des productions québécoises.
Ultimement, notre équipe, c'était que des Québécois. Vraiment, c'est, on était une gang de francophones. Fait que c'est sûr que it felt like home. Là, il n'y avait pas vraiment de gros clash. C'est sûr que d'avoir une histoire comme Barbie qui est à Montréal, c'était hyper impressionnant. Puis elle était tellement une leader positive sur le plateau. Elle connaît le film par cœur. Elle est productrice sur le film. Elle était hyper impliquée dans tout ce qui est promo. Mais c'était vraiment intéressant d'avoir une gang de Québécois sur le plateau parce que, ultimement, je pense que les gens pensent un peu que c'est un film... sur Montréal, là, parce que bon, le titre, c'est le nom d'un quartier montréalais, mais c'est vraiment un film sur le point de vue d'une Torontoise qui change de ville, tu sais, puis qui essaie de s'adapter à un certain endroit où le monde ne parle pas anglais. Tu sais. Effectivement, il y avait beaucoup de points de vue qui étaient comme d'une Torontoise. Fait que est-ce que il y avait des petits points peut-être que Chandler n'aurait pas pu savoir? On fait pas tant ça de même, moi ça, on dirait pas vraiment ça. Puis finalement, tout le monde était impliqué, autant les décors que les costumes, à rajouter de la véracité dans le tournage. Puis c'était important, puis Chandler était vraiment... voulait savoir c'est qu'est-ce qu'on pense, comment c'est vraiment. Fait que ça, c'est cool d'avoir comme tous les départements qui, finalement, travaillent aux archives, là, au script.
Tu l'as mentionné, c'est ça, Barbie Ferreira joue le rôle principal. En fait, tu partages plus souvent qu'autrement l'écran avec elle et avec Robert Naylor. Il y a beaucoup de promos aussi aux États-Unis là, qui ont été faits sur le fait que c'était son premier grand rôle après Euphoria. Parle-nous un peu de comment c'était de travailler avec ces deux-là, donc Robert et Barbie.
Barbie, franchement, ça vraiment changé ma vie, cette rencontre-là. Là, comme c'est une femme tellement forte, tellement... elle a confiance en elle, puis je pense qu'elle a pris des décisions pour sa carrière qui ont paru surprenantes. D'écouter Euphoria, le show que tout le monde écoute, qui est comme tellement... qui a tellement changé notre perception de HBO, puis je pense qu'elle a pris une bonne décision, tu sais, concrètement. Là, on le voit, là, la troisième saison sort, puis il y a tellement de critiques négatives, puis tout. Fait que looking back, je pense qu'elle est hyper fière de son choix. Puis c'est quelqu'un aussi qui est vraiment sous l'œil du public, qui a été vraiment sous l'œil du public dans la dernière année, qui a vécu des transitions, puis qui est devenue comme un peu la bouc émissaire un peu de toutes ces champs de bataille-là, les questions qu'on a sur le corps des femmes. Elle m'impressionne vraiment, vraiment énormément. Puis c'est tellement cool. La première fois que je l'ai rencontrée, elle parle tellement vite. Tu sais, New Yorkaine, elle parlait tellement vite. Moi, je faisais juste acquiescer. Je disais, OK, yeah, whatever you say, Barbie. Elle me fascine. Normalement, j'ai comme vraiment très comprendre qu'est-ce qu'elle disait. Parce que c'est pas le lobby, là. Mais ouais, elle est géniale. Puis Robert, encore une fois, il est top. Puis tu sais, Robert, il parle bien anglais. Il est comme vraiment dans ce milieu de genre Québécois anglophone, mais avant tout, c'est Québécois. Puis moi, puis lui, on représentait un peu ce duo francophone. Puis genre, pendant la première au TIFF, les gens riaient un peu de tout. Mais la première à Montréal, les gens avaient vraiment comme étaient vraiment actifs sur genre toutes les petites références québécoises, toutes les scènes de Robert, genre les gens riaient tellement. Puis effectivement, je pense que comme ils vont se retrouver dans lui, dans son personnage, dans le mien. Puis, j'ai hâte de voir en fait la conception, j'ai hâte de voir parce que je pense que c'est comme quand tu lis un livre pendant tellement longtemps, puis là, ils décident de faire un film dessus, t'es comme un peu protecteur, t'es comme un peu comme « Hey, c'est à moi! » Mais même chose avec le quartier, c'est ta ville, on décide de faire un film dessus, là, les gens se font souvent être protecteurs. Mais j'espère que, en tout cas, ça sera bien reçu dans le sens où, au début, le film devait s'appeler anglophone. Finalement, ils ont changé parce qu'apparemment, personne ne sait ce que ça veut dire anglophone.
Ouais.
Mais c'était ça le concept un peu. C'était comme une anglophone qui arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Puis c'est pas nécessairement un film sur le Québec, genre, c'est un point de vue.
Oui, oui, c'est ça. C'est surtout quasiment un coming of age là, d'une certaine façon, mm-hmm. là, même si elle est quand même un peu plus vieille, là, début vingtaine.
Totalement.
Le film repose beaucoup sur son ambiance musicale d'abord, mais aussi nostalgique. Oui. Je l'ai mentionné, on est au début des années 2010, qui nous semble bien loin. Mais aussi sur son aspect géographique, parce qu'il se passe, comme le titre l'indique, puis comme tu l'as mentionné, dans le Mile End. Peux-tu, pour ceux qui habitent pas Montréal, un peu nous parler de ce quartier-là puis de son importance pour les artistes.
Aïe, je te dis, c'est le quartier cool, là, comme c'est intense. Là. Quand il commence à faire chaud dehors, là, attention, là, pensez-vous, là, parce que c'est comme... Bon, il y a une rue qui est comme la rue plus principale qui est Saint-Viateur. Là, le monde, là, c'est un défilé de mode. Là. Mais pas seulement un défilé, là, c'est un dating pool. Là. Les gens sont complètement fêlés, là, ça tombe en amour, ça... Tout le monde, c'est l'ex de tout le monde. Il y a comme vraiment quelque chose dans l'air. C'est pas drôle. Dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup justement de monde d'Ontario, de Toronto qui viennent, qui font de la musique. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de after hours, beaucoup de projets aussi, un peu indépendants de after hours, de rave, comme toujours Paris. C'est plutôt sécuritaire, je dirais, dans le sens où comme c'est des jeunes, c'est des gens queer. C'est des gens aussi de la diversité qui font ces soirées-là, justement. Fait que ça crée comme un espace de party, de sexualité, de fashion. You know, les gens sont jeunes, les gens sont cool. Puis en même temps, oui, il y a des jeunes, puis en même temps, c'est comme plein de petits pépères un peu qui regardent le match au Café Olympico. Fait que c'est comme vraiment un mix des deux. Puis en même temps, il y a des familles vraiment cool, avec des trucs, des sets ergonomiques. Là. Genre, c'est vraiment spécial, là. Mais... dans les dernières années, ça s'est beaucoup, beaucoup en bourgeoisie. Je pense qu'au début, il y a longtemps, c'était comme vraiment... Ma mère m'a dit, mais c'était comme le café un peu italien. Puis oui, ces cafés-là. Puis oui, éventuellement, la musique. Mais là, c'est vraiment... Oui, c'est devenu le petit quartier in. Puis oui, ça a changé. Puis oui, les gens viennent de partout pour aller au café Olympico puis prendre un café à 9 piastres de café. Puis c'est comme un peu weird. Je me demande même si les gens du Maiden ne sont pas tannés eux-mêmes du Maiden.
Ouais.
ça devient un peu comme une parodie de toi-même. Genre, c'est absurde, pour vrai. C'est vraiment weird.
Puisque c'est un film sur la musique, je serais curieux de t'entendre peut-être sur tes artistes montréalais préférés.
Montréalais préférés, oh my God.
Ou québécois, mais là, si ça peut éteindre.
M'en donne une bonne...
En écoutes-tu?
Oui, j'en écoute. Moi, j'aime vraiment Richard Desjardins.
Okay.
J'aime vraiment ces chansonniers-là. Le premier album que je connaissais par cœur, c'était L'Écologue. Ça a été comme... En tout cas, je sais pas si c'est... Les Chiens de Rouen, ça se peut-tu? En tout cas, ma sœur m'a fait découvrir un genre de groupe folk qui se jette. C'est génial. J'aime vraiment le country. J'aime les chansonniers. J'aime le genre de pop rap. Genre, j'adorais les débuts de Fouki quand il était sur SoundCloud. On capotait dans Scandal aussi. J'aime Dead Obies, of course, j'ai grandi avec ça. Ce genre de trucs-là. Mais là, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Magi Merlin, qui a un petit rôle dans le film et qui a fait la chanson du générique aussi. Et elle est super Magi. Puis, tu sais, elle est anglophone, elle parle français, mais je pense qu'elle est. T'sais, on est vraiment à cheval sur la langue française, puis on fait bien, puis il faut continuer de l'être. Mais j'ai l'impression qu'il y a une division tellement claire entre les Anglos, les Français à Montréal. Puis je pense qu'effectivement, on est comme un peu. Nous, on se comprend, nous. Là. Eux, mm-hmm. après, c'est eux qui sont isolés. Là, à la limite, c'est pas grave, là, mais je trouve qu'il y a des talents quand même importants comme Majak qu'il faut continuer de, d'inclure. Puis, c'est spécial parce que genre, les Québécois, obviously, on est tannés du monde qui n'apprenne pas le français, qui se pointe ici et qui font comme aucun effort, whatever. Mais on est aussi tannés des Français de France. Et là, on ils nous énervent. Fait que c'est comme, il faut décider un moment donné, on ne peut pas rester juste entre nous. Mais vive la loi 101 et tout ça. Genre, on est là.
En terminant, je ne sais pas si tu veux parler peut-être d'autres projets que tu as à venir, si tu as le droit, si tu peux.
J'ai joué dans un super film qui est pas encore... Tu sais, c'est bizarre, hein? Les Américains, ils font des films, ils savent même pas s'ils vont se faire acheter, mais ils vont pareil. Fait que là, j'ai fait un film cet été dernier qui était absolument génial par le réalisateur German Collette Serra. Il avait fait le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie qui s'appelle The Orphan, qui est tourné au Québec, je ne savais même pas, mais c'était génial. Ça fait capoter sur lui. Fait que là, grosse production en Australie, dans un studio LED, avec le lead, c'était Noah Jupe, qui est absolument génial, qu'on a vu dans Hamnet. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment impressionnant, puis j'ai trippé à faire ça. Fait que j'espère qu'il va se faire acheter, totalement. J'espère qu'il va s'en faire un jour. Mais sinon, on va pouvoir voir aussi la nouvelle série lourde, je pense que c'est genre 8 épisodes de comme presque une heure chaque, c'est fou, mais comme ça va être sur Crave, ça serait juste le tien. Où le lead à Marie-Lise Tremblay, puis moi et Antoine Pilon, on joue un genre de couple, puis elle vient nous chambouler, nous fucker un peu notre vie, c'est un genre de thriller. Fait que ça, je pense que ça va être cool aussi, j'ai hâte de voir ça, mais c'était pas facile pour moi, c'était un rôle d'une travailleuse du texte, il y a beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux cacher, tu sais, dans le public, ça fait peur des fois. Fait que ça, c'est un gros défi dans la dernière année pour moi, mais j'ai hâte.
Oui, on reste à l'affût de tous ces beaux projets-là. Tu as une belle carrière qui a le vent dans les voiles. Et puis, félicitations encore une fois pour Mile and Kicks qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Vous serez également, là, l'équipe Robert et toi, je crois, présent à la Maison du cinéma. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci, Alexandre. Bonne journée.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et je poursuis mon exploration donc de cette programmation du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke pour vous parler du film J'ai perdu de vue le territoire qui sera présenté ce soir en fait à 17h à la Maison du cinéma. Pour en parler, on a la réalisatrice ici en studio, Sophie Bédard-Marcotte. Bonjour, ça va bien?
Allô, merci beaucoup de me recevoir. C'est J'ai perdu de vue le paysage.
Ah oui, pardon, oui, le territoire,
c'est
ouais, le paysage, je m'excuse.
C'est un long titre, je sais, c'est compliqué chaque fois.
j'ai d'abord félicitations pour ce film parce que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai mentionné un peu hors d'onde, mais ça touche beaucoup de choses que j'aime voir dans le cinéma documentaire, même dans le cinéma de fiction aussi, là, cette question du processus créatif, de la vie personnelle aussi qui s'immisce dans notre sujet, l'humour aussi qui est bien présent. Dans le film, donc, tu dresses 16 tableaux, 16 chapitres, où tu essaies de documenter la pièce de théâtre expérimentale d'un dramaturge, mais le projet comme le mythe de Sisyphe lui-même, là, duquel la pièce est tirée, subit beaucoup de contre-coups et de recommencements. Peux-tu nous dire un peu quelle a été la genèse initiale du projet? Parce qu'on comprend que le projet a évolué de son début jusqu'à sa fin. Là.
Oui, c'est ça. C'est un projet que j'ai quand même tourné sur 4 ans, ce qui n'est pas si long pour un documentaire, mais dans mon cas, c'est plus long que mes derniers films, disons. Mm-hmm. Puis au départ, c'était vraiment... c'est un film... C'est drôle de parler de ce film-là parce que dans le film lui-même, je raconte beaucoup qu'est-ce que je suis en train de faire, mais c'est un film où vraiment je voulais me laisser guider par le réel. Puis, tu sais, j'avais fait des films avant, comme Claire l'hiver, Elle est Tea Time, où j'étais plus guidée par un scénario, même si c'était du documentaire, dans le cas d'Elle est Tea Time, mais j'étais quand même plus guidée par un scénario. Puis cette fois-ci, j'avais comme une envie de faire les choses différemment, de me laisser guider par le réel, d'être un peu comme une éponge, tu sais, puis de juste comme c'est ça, voir où le réel allait me mener. Et aussi j'avais envie de tourner ma caméra vers quelqu'un d'autre parce que j'étais dans mes autres films qui étaient plus du côté de l'autofiction. Fait que là, c'est ça, c'était vraiment ça. C'était je vais documenter ce spectacle de Gabriel Charlebois-Plante qui est autour du mythe décisif. Moi, le mythe décisif, avec toutes les questions existentielles qui se rattachent à ça, les questions de quête de sens aussi, moi, ça m'interpellait beaucoup. Puis Gabriel, c'est vraiment... c'est un artiste qu'évidemment j'aime beaucoup, sinon j'aurais pas fait un film autour de sa pratique, mais aussi que je savais qu'il était drôle. Et donc, il y avait comme quelque chose que je voyais dès le début qui pouvait à la fois être léger et profond. Puis c'est un peu comme ça que j'aime aborder mes films.
C'est à partir de quel moment où là... le film a pris une autre direction, puis t'as constaté que, ça aussi, finalement, c'est un peu une analogie, ce documentaire-là est un peu une analogie à ce mythe de Sisyphe-là. Mm-hmm. C'est à partir de quel moment, la première année, deuxième année, tu sais, à quel moment t'as réalisé ça, puis t'as fait, OK, c'est vers là qu'on s'en va.
C'est comme il y a un petit paradoxe dans le film parce que autant j'essayais de me laisser inspirer par le réel puis de pas trop guider ou décider d'avance, autant il fallait bien me rendre à l'évidence que en tant que cinéaste, j'ai un petit côté control freak. J'aime bien être en contrôle de qu'est-ce que je fais puis de où je m'en vais. Et donc là, moi, même s'il y avait plein d'imprévus, même si, sans vouloir brûler de punch, même si la relation entre moi et Gabriel évoluait, mm-hmm. j'avais envie de quand même me concentrer sur sa pièce et j'avais encore envie de faire un film qui documente la création d'une pièce de théâtre. Puis j'ai lutté très longtemps contre le fait que le film était en train de devenir autre chose que ça, puis plus grand, puis plus large que ça, jusque vraiment à la toute fin, là, en montage, où avec la monteuse, Myriam Agasuba, avec qui je travaillais pour la première fois, puis à qui j'avais pas tout dit sur le contexte de production, puis la relation entre moi et le sujet documentaire. là, il a bien fallu se rendre à l'évidence que c'était partout dans le matériel qu'on a filmé, en fait, puis que le film, c'était plus qu'un film sur une pièce de théâtre. Fait que c'est vraiment assez tard, là, finalement. Ouais.
Tu sais, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même pratique courante, j'imagine, dans le cinéma documentaire, qu'à un certain moment, à force de côtoyer son sujet, on devient un peu impliqué, ou en tout cas, on vient qu'à, soit impliquer la réaction du sujet par rapport à ce qu'on essaie de démontrer et tout ça. C'est ça, on brûlera pas le gros punch, même si on tourne un peu autour, pareil. Ouais. Mais est-ce que tu considères, toi, qu'il y a un gros clivage, un avant et un après, quand il y a rapprochement entre ton sujet et toi, puis dans la perspective, ou en tout cas de la façon dont tu filmais les scènes, ou ce que tu documentais.
Il y a vraiment un avant puis un après. Je veux dire, je pense que le rendu là, on peut le dire, là, que c'est, le film est un petit peu une comédie romantique documentaire, dans le sens que en cours de route, on est tombé amoureux, puis ça change complètement le rapport. Mm-hmm. Parce que quand tu filmes, au départ, c'était mon voisin, mon ami, quand tu filme un voisin, un ami, il y a quand même une distance, puis il y a un contexte, puis quand ce contexte-là change, quand les cartes se brouillent un peu, à ce moment-là, j'ai même pris une pause là, de tournage parce que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce film-là? Qu'est-ce que c'est? On dirait que j'étais...
Qu'est-ce que ce sera... À partir de là.
Ce sera à partir de là? Puis quand je filmais, à partir de ce moment-là, quand je filmais avec Gabriel, on n'avait plus les mêmes interactions, on n'avait plus le même genre de relation. Ça a été quand même un casse-tête, puis quelque chose... je ne m'attendais pas du tout à ça. T'sais. C'était pas ça, mon film. C'était pas un film personnel. Comme je disais tantôt, je voulais tourner ma caméra vers quelqu'un d'autre. Puis des fois, à force de vouloir tellement faire quelque chose de précis, ce que le film m'a appris, c'est que on fait un peu... des fois le contraire de ce qu'on voulait faire. Puis là, c'était un peu comme le film, c'était un peu comme sur notre manque d'emprise, en fait, là, mm-hmm. t'sais, qu'on a dans le fond sur nos vies, même si on aimerait ça être en contrôle. Fait qu'il a fallu, ça a été un grand processus d'acceptation.
Ouais. Puis c'est ça, il y a beaucoup de mise en abîme et on constate à travers la démarche donc de Gabriel que lui-même cherche un peu ce que sera sa pièce de théâtre. Mm-hmm. Toi-même, tu cherches un peu ce que sera ce documentaire-là. C'est comment d'observer le processus créatif de quelqu'un d'autre?
Je le découvrais en faisant ce film-là, ouais. Tu sais, parce que c'était la première fois. Mais c'est tellement une bonne question. Tu sais, Gabriel, moi, je connaissais ses pièces de théâtre. Je les aimais beaucoup. Mais je l'avais jamais vu en répétition. Puis quand j'ai vu tout son travail, tu sais, puis son travail, c'est vraiment là, il accueille le passage du temps, tu sais, c'est vraiment mm-hmm. comme c'est des très longues séquences d'un peu de là je m'écoute puis je suis comme je veux pas faire peur aux spectateurs. Mais c'est quand même il explore beaucoup corporellement, ouais. avec ses acteurs, puis il y a beaucoup d'improvisation, puis de tests, puis de tout ça. Puis moi quand j'ai vu ça puis que j'étais là avec ma caméra puis ma petite équipe, j'étais comme OK, comment on fait pour que ça reste cinématographique, tu sais. Mm-hmm. Je voulais pas simplement filmer du théâtre, tu sais, j'avais envie de vraiment suivre justement le processus d'écriture de Gabriel aussi, puis un peu à travers ça parler plus largement de quête de sens, tu sais, parce ouais. que faire de l'art c'est pas juste propre à faire de l'art, mais c'est quand même faire de l'art, c'est quand même essayer de trouver un sens à pourquoi on est là, puis juste ouais. essayer de fabriquer un sens, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Là, je pense que j'ai pas exactement répondu à ta question.
C'est correct,
mais c'est quand même complexe, puis mais c'est le fun d'essayer de rentrer dans la tête de quelqu'un, parce que juste au niveau de la mise en scène, il y a tellement de choses qui sont possibles, tu sais, mm-hmm. pour illustrer les pensées puis l'évolution.
Ouais.
De l'idée de quelqu'un. Mais moi, j'ai vraiment du fun.
C'est
ouais.
ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le documentaire, c'est que le film a une proposition initiale, puis la pièce de théâtre a une proposition initiale qui est complètement différente, ben, pas 100% complètement, là, mais qui est quand même assez différente du produit final. Mm-hmm. Il y a cette évolution-là, lui, il est marqué, il veut pas, son processus créatif est marqué par la longueur du processus, mm-hmm. Qui a été rallongé à cause de la pandémie, à mm-hmm. cause de plein d'événements extérieurs, puis de voir que même le film aussi part de quelque chose, puis au final, le public, le grand public a juste accès au produit final, mais mm-hmm. n'a pas accès aux répétitions ou en tout cas tout ce que ça demande dans la vie de quelqu'un de faire tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où... je sais pas comment la formuler exactement. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit... Ah, non, il n'y a rien finalement dans ce film-là. OK, je vais arrêter parce que là, ça tourne trop en rond. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a tenu accroché finalement à ce projet-là?
C'est un film que j'ai écrit, puis réécrit, puis réécrit vraiment tout le temps. T'sais, je suis partie, évidemment, j'ai écrit au départ, mes idées de départ, puis une espèce de guide, là, tu sais. Puis après chaque tournage, je réécrivais un peu, OK, comment ce tournage-là s'imbrique avec le prochain, comment je peux me projeter dans les prochains tournages. Puis évidemment, au montage aussi, c'était beaucoup d'écriture. Bon, puis à chaque fois, justement, c'était de trouver, OK, de renouveler la compréhension de pourquoi, tu sais, pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que je veux dire avec ce film-là. Fait qu'il n'y avait pas, à part le moment où notre relation a changé avec Gabriel, ouais. Entre Gabriel et moi, il y a tout le temps quelque chose qui me tenait. Mm-hmm. Puis c'était la clé de quand j'étais comme satisfaite ou quand j'étais le plus en phase, là, je pense, c'est quand j'ai essayé de voir, quand je trouvais comment les scènes, même s'ils parlaient de choses personnelles, puis de c'est ça, comment ça pouvait parler à un grand public. T'sais. C'est quand, mm-hmm. quand tu arrives à dire, OK, ça, je pense que justement, ça parle d'espèce de désir d'emprise sur nos vies. T'sais, c'est pas propre à un acteur, un artiste de théâtre. T'sais. Tout le monde a envie d'avoir une emprise sur leur vie, je pense. Et tout le monde est pris avec le fait que on n'en a pas tant que ça. Fait que c'était à chaque fois de ramener ça à des thèmes plus grands. C'était toujours là que j'étais comme le plus inspirée. Mm-hmm. Ouais.
Est-ce que c'est une démarche que tu penses que tu vas répéter à l'avenir? Tu dis avoir beaucoup de contrôle. Là, tu sais, il y avait quand même une possibilité que la pièce n'aboutisse pas, là, ce qui aurait donné un autre film peut-être.
Ouais,
ouais. Là, mais est-ce que tu vas te laisser porter à nouveau par les contraintes extérieures, ou si tu aimerais mieux revenir à un environnement un peu plus contrôlé pour ton prochain?
Je pense que c'est un genre de valse, là, ça, ouais. dans le sens que je pense que quand on n'a pas beaucoup de contrôle, on en veut, puis quand on a beaucoup de contrôle, des fois, on a envie de s'évader. s'évader puis de lâcher son fou un peu. Fait que je pense que ça dépend. Là, je travaille sur une fiction, fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus contrôlé. Ça me fait très plaisir en ce moment. mais je pense que je reviendrai. T'sais, le documentaire, j'aime quand même ça, qu'il y ait une part de confiance en le réel, tu sais, puis se dire qu'il y a quelque chose qui va émerger, même si on ne sait pas dès le départ. Puis tu sais, juste par rapport au fait que c'est vrai, on n'a pas encore nommé la pièce, mais la pièce, c'était parce que, je veux dire, le cinéma étant plus lent que le théâtre, ça a été présenté déjà, mais c'est Cette colline n'est jamais vraiment silencieuse. Puis ça a été, tu sais, même si la pièce, finalement, n'est pas dans le film, parce qu'on se rend jusqu'au soir de première, mais comme je disais, j'avais pas envie de filmer comme une pièce de théâtre. Fait que, tu sais, on se rend vraiment jusque-là, un peu comme Sisyphe qui n'arrive jamais vraiment à être fixé quelque part. Et donc, mais c'était un grand succès, cette pièce-là. Ouais. Fait que c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas un making-of d'un grand succès théâtral. C'est vraiment humblement montrer ce processus-là, tu sais, puis comment on peut avoir l'impression des fois de tourner en rond, mais comment on avance quand même toujours vers quelque chose.
Ouais, non, c'est super bien dit. Assurément, le public présent ce soir à la Maison du cinéma pour approfondir cette discussion-là, te poser ces questions. Donc, à 17h, la projection ce soir à la Maison du cinéma. Il y a une deuxième projection également mardi le 21 avril à 12h30, donc toujours à la Maison du cinéma. Sophie Bédard-Marcotte, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en studio ici. Bonne chance pour... bonne projection, en fait. Là, bonne rencontre avec le public dans le cadre de cette 13e édition du festival. Merci à toi.
Merci beaucoup. Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments.
Coller les uns aux autres sans narration. Et c'est ce qui conclut cette émission de Ciné Histoire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à tous nos invités. Sophie Bédard-Marcotte, que vous venez juste d'entendre. J'ai perdu de vue le paysage. Donc, c'est projeté ce soir et mardi midi. Donc, manquez pas ça. Merci beaucoup à Juliette Guerrier, puis également du film Mile and Kicks qui prend l'affiche aujourd'hui. Il y a une avant-première également à 19h. Sinon, merci beaucoup à Martin Bureau. Plus rien n'est égal par ailleurs. Ce sera diffusé ce dimanche à 19h45. Et puis, voilà, c'est ce qui conclut cette émission. Bon festival si vous y allez, là, vraiment. J'ai oublié de remercier Catherine Villot, directrice de programmation du festival, pour ce petit tour d'horizon. Donc, elle vous a donné plusieurs suggestions. Allez voir tout ça. Je sais que la fin de session approche à grands pas, ou peut-être que vous avez déjà les deux pieds dedans, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir un film, au moins un film. Vous pouvez aller en voir plusieurs, évidemment, mais c'est ça, au moins un film pour encourager ce beau festival Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Jade fera son retour à l'émission. Et puis, voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.